Le thème que je veux prêcher ce matin, ça fait un moment qu'il traîne dans ma tête. Alors, je ne vous dis pas tout de suite, mais j'ai lu, j'ai relu l'épître que je voulais étudier. Je l'ai réétudié, j'ai regardé sur Internet, cherché. Mais c'était creux, j'arrivais pas. Puis en plus, j'ai vécu une semaine de galère. Il n'y avait rien qui voulait, rien. J'avais pas le commencement, j'avais rien. Et je dis, dis-toi, tu vas prêcher dimanche sur ce que tu veux prêcher là, t'as vu déjà comment tais-toi là. Donc j'ai dû passer du temps, croyez-moi, demander à Dieu, aide-moi parce que waouh, c'est compliqué cette fois-ci, c'est vraiment... Vous savez, prêcher, c'est pas, on prêche pas comme ça facilement, ça revient pas. Faut vraiment demander à Dieu qui dispose les choses et les recherches et tout ça. Mais merci Seigneur, tout mon samedi, ça a été pour la prédication. Ça, c'était ma première expérience de cette semaine, et je rends gloire à Dieu pour ça. Et j'ai vécu une chose vendredi soir, mais vraiment forte. Vous savez, j'expérimente tous les jours la prière en langue. Quand je vais au travail, je prie en langue, et je prie très, très, très souvent en langue. Ça peut durer 20-25 minutes de route, je prie en langue. Et j'avais déjà vu qu'il y a des moments... Le langage ressemble quand même étrangement à une langue d'un autre pays. Et moi, je me vois en prier en indien. Je dis, c'est bizarre, on dirait de l'indien. Et là, vendredi, j'étais parti à Chrono Drive, dans ma voiture, et je commence à prier en langue. Mais vraiment, à haute voix. Puis j'attendais Abigail, qui était longue. J'attendais, et là, je dis... Alors, je prie en langue, je regardais à travers le carreau, puis je dis, oh, on dirait que je parle arabe. Mais vraiment arabe. J'avais l'impression d'être un arabe. Mais alors, mon intelligence analysait ça, et ma bouche parlait en langue, et elle parlait en langue. Et il y a un truc qui m'arrive, et en même moment que je dis, c'est marrant, on dirait que je parle arabe. Et devinez, il y a un moment que j'ai reconnu, j'ai dit, Aïssa. Aïssa, c'est Jésus en arabe. Mais je me suis arrêté, je parlais vraiment en arabe, je parlais vraiment, mais ça m'a choqué. Et pourtant, c'était le parler en langue, j'expérimente, mais j'ai été choqué de... Ah ouais, tu parlais en arabe, mec, tu parlais en arabe. Ça m'a fait vraiment bizarre, croyez-moi. Et je souhaite que tous, vous puissiez, comme Paul dit, que vous parliez tous en langue. Tous, vraiment, c'est fortifiant, c'est vraiment fortifiant. Alors, on va arriver sur le thème du message d'aujourd'hui. Qui est, tu peux l'afficher, le titre, c'est « La joie de vivre en lui ». Est-ce que vous êtes joyeux? Vous savez, dans la parole, dans la Bible, tous les livres portent un nom, on est bien d'accord. Mais on peut remplacer ces noms par les thèmes de ces livres. Si je vous dis, donnez-moi l'épître qu'on appelle l'épître de la joie. Des érudits dans cette église, c'est incroyable. Voilà, exactement, c'est Philippiens. Philippiens, écoute, Claire-Luce, viens prêcher, s'il te plaît. Non, mais voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est Philippiens. Alors, j'ai basé mon message aujourd'hui sur l'épître aux Philippiens, et aussi, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, sur un enseignement que j'ai pu lire de Fabien Wegel, qui est directeur d'un centre de formation biblique du côté de la Bretagne. Alors, j'ai fait un mélange des deux, un peu de Michel Leroux, un peu de Fabien, et surtout du Saint-Esprit. Donc voilà, êtes-vous dans la joie, comme je vous ai posé la question. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors, la joie, c'est un sentiment qui est souvent ponctuel, Il est en conséquence de circonstances, vous savez, d'un moment particulier. Mais ce n'est pas de cette joie-là que je veux vous parler. Moi, j'ai envie de vous parler de la joie qui vient de là-haut, vous savez, la joie qui vient du ciel. Cette joie que Dieu nous propose, cette joie que Dieu veut nous faire partager, cette joie qui fait partie des fruits de l'esprit. Vous savez, tous ces fruits qu'on a besoin pour grandir, cette joie qui nous accompagne tous les jours, dans n'importe quelle circonstance, qui est là et qui ne varie pas. Celle qui nous rend forts. Alors bien évidemment, je ne veux pas critiquer les joies naturelles, qui sont tout à fait légitimes. C'est naturel de se réjouir et de pas aussi de pas négliger cette joie qui vient de bons moments qu'on peut partager lors d'un repas, lors d'une réussite à un examen, d'un coup de téléphone qui fait plaisir, de choses, de réussite de bonnes affaires, toutes ces joies qui peuvent avoir des moments particuliers dans chaque instant de nos vies. Ces joies, on en a besoin, mais elles sont terrestres. Et parce qu'elles sont terrestres, elles sont éphémères. Elles ne restent pas. Surtout quand les difficultés arrivent, cette joie-là, elle est balayée. Elle n'est plus là. Même si elle était intense, si elle était forte et grande, à nous faire pleurer, à nous faire rire aux éclats, elle peut être balayée comme ça. Parce que elle est de cette terre. Elle est éphémère. C'est une joie qui ne vient pas de Dieu. On a même essayé de fabriquer des endroits où il y a la joie pour se réjouir à cause d'une ambiance. On crée une ambiance, donc on pense qu'il va y avoir de la joie. Ça existe. On peut même essayer. On a même essayé de créer des cachets, des choses comme ça qui vont vous rendre joyeux, heureux, un semblant de joie. C'est un semblant de joie. On décolle, on est heureux. Mais quand on atterrit, comme je dis tout le temps, ça pique, ça fait mal. Alors c'est quoi la vraie joie? Qu'est-ce que la vraie joie? Comme je l'ai dit, c'est cette joie qui vient du ciel, cette joie qui fait partie des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, on va se les redire. Tiens, justement, dans mes recherches, j'ai vu quelque chose. Selon la version de votre Bible, il y a un des fruits de l'esprit qui disparaît. J'ai vu ça. Ils sont 9. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et j'ai pu constater que la foi, dans certaines versions, elle n'y est pas.
C'est traduit par fidélité.
Par
fidélité,
ouais. Voilà, fidélité par la foi. Et j'étais choqué, je dis tiens, j'aime bien utiliser la version NEG, hein, mais voilà, je voulais vous le dire, quelque chose que j'avais remarqué. Alors la joie, c'est une attitude qui est produite par le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous donne tout ce qu'il a à nous donner. Et ces fruits de l'Esprit de Galates 5, ils doivent être manifestés de plus en plus. Ils sont là, hein. On les a reçus. Mais c'est à nous à les faire grandir et à les manifester. Vous savez, on parle souvent que Dieu est amour. Amen. Mais vous savez quoi? Dieu est aussi joie. Dieu est joie. C'est des attributs de Dieu. C'est des attributs de Dieu. La joie fait partie de Dieu. Alors, être joyeux, c'est une décision. Est-ce que vous êtes décidé à être joyeux? C'est une attitude. Est-ce que j'ai envie d'avoir une attitude joyeuse? Moi, cette semaine, j'ai pas eu une attitude de joyeux. Bien au contraire. J'ai râlé, j'ai pesté. C'est la vérité. Je ne vais pas mentir, c'est la vérité. J'ai pesté parce qu'il fallait aller à gauche, il fallait aller à droite, il fallait au milieu, derrière. Et je dis, c'est bon, ça va s'arrêter quand, ce truc-là? Et quand tu crois que tu as fini, tu es obligé d'y repartir. On a eu des belles semaines. Ouais. Mais si je ne suis pas dans la joie, est-ce que ça cause des choses négatives? Est-ce que parce qu'il y a des choses négatives qui arrivent dans ma vie, donc automatiquement je ne suis pas dans la joie? Non, ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que tout est galère autour de moi que je ne dois pas être joyeux. Je peux être joyeux malgré toutes ces circonstances. Je peux avoir la joie de Dieu à travers les moments compliqués. Mais simplement, il faut le vouloir. C'est une décision. J'ai décidé d'être joyeux, malgré tout. Ce matin, Je me suis à peine levé, je les ai tous enquiquinés à la maison. À peine, je suis dans la joie. Et puis je les ai embêtés. Hey, je suis dans la joie, j'ai pas arrêté. Hein, les filles, ils vont pas bien, ils vont pas bien. Ben si, si, j'ai décidé, je veux être dans la joie. Je veux être joyeux aujourd'hui, je veux profiter de tout. C'est une décision. Cette décision m'a amené à une attitude d'être heureux, de savoir que j'ai la joie de Dieu dans ma vie. C'est ça, c'est ce que j'ai envie. Alors on va revenir un petit peu sur Philippiens, on va faire un petit peu d'histoire quand même, parce que j'ai fait des recherches, je vais vous les dire, je vais crâner un peu. Alors Philippiens, quand on lit le chapitre 1, à différents versets, le 7, le 13, le 14 et le 17, on voit que Paul parle de ses liens. Donc à travers ces versets-là, on comprend bien que Paul a écrit Philippiens quand il était en captivité. D'accord ? Il était en captivité. Et Philippiens fait partie de quatre épîtres. Quand on fait un peu d'études, il y a quatre épîtres qu'on appelle les épîtres de la captivité, hein, qui sont, Claire-Lise ? Il y a Colossiens, Philippiens, Philippiens, Éphésiens et Philémon. Philémon. Donc voilà, ça fait partie des épîtres de la captivité, qui nous explique un petit peu la... surtout Philippiens est une épître qui montre l'expérience de la marche du chrétien. La marche du chrétien, comment elle est. Et étrangement, la marche du chrétien, dans Philippiens, on parle de la marche du chrétien, de son expérience de vie, et étrangement, on l'appelle l'épître de la joie. Mais bizarre. Parce que la marche du chrétien, elle n'est pas toujours facile quand même, non ? Et pourtant, c'est l'épître de la joie. Ça voudrait dire que normalement, on devrait toujours marcher dans la joie ? Moi, je le comprends comme ça. Hein. Mais, vas-y, tu peux l'afficher. Vous savez quoi ? Comment ça se fait qu'il s'éteint ? On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Si j'ai pas la joie dans mon cœur, comment voulez-vous que je la donne, puisque je l'ai pas? Mais si je l'ai pas, c'est parce que je veux pas la vivre. Donc il suffit simplement de faire le truc à l'inverse. J'ai décidé de l'avoir. Je veux la joie de Dieu. Je la veux. Et si je l'ai, je vais pouvoir la partager. C'est tellement si facile. Ouais. Mais ça, c'est que en parole. Si le cœur de Paul était plein de joie, c'est parce qu'il était occupé par Christ. Et Christ était toute sa vie. Vous comprenez ça ? Si Paul était si joyeux, c'est qu'il était occupé par Christ. Et Christ était toute sa vie, toute sa vie. Il était rempli de lui. Et malgré, comme je vous ai dit, que c'est la marche de l'expérience du chrétien, l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Justement, la marche du chrétien doit être joyeuse. Est-ce que c'est toujours vrai ? Quelles que soient les circonstances, nous devons être joyeux. Quelles que soient les circonstances, même les moments les plus compliqués de notre vie, on devrait être joyeux. Elle me dira, mais Michel, arrête un peu. Bah, je suis désolé, mais on va pas parler de Michel, parce que Michel, il n'est pas toujours joyeux. Il n'arrive pas encore à tirer cette attitude, parce qu'il y a des moments où il fait la gueule, Michel. Il ne va pas bien. Il a besoin que le Saint-Esprit lui rappelle, lui dire, hey, « Hé, Ocho, qu'est-ce que t'as dit ? T'as dit que tu voulais être joyeux. Eh ben, vas-y, arrête de parler, agis. Bouge, fais ce que tu dis. Parce que sinon, tais-toi. » Mais regardez, Paul. Qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Il ne pouvait pas dire, ben non, j'ai pas envie d'être joyeux. Paul était en prison pendant 4 ans. Il était en prison. Il a vécu des galères, mais phénomènes. Tout ce que Paul a vécu, combien de nous, on aurait pu vivre ça ? On aurait été découragés. On aurait pleuré sur nous-mêmes. Pleuré sur nous-mêmes. Mais Paul ? Parce qu'il avait compris, cette chose. Il aurait pu dire, mais Seigneur, arrête, je suis là, je suis en prison. T'as bien vu tout ce que j'ai fait pour toi, je suis entièrement à toi. J'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai ouvert des églises, j'ai édifié l'église pour toi. Et là, où je me retrouve, en prison, on me maltraite, je suis pas bien, je suis malheureux. Et en plus, tout ce que je veux faire, je peux pas le faire. Je suis bloqué là, en prison, là. Pendant qu'il y en a certains, là, ils sont dehors, et je vais le dire comme je l'ai écrit, qui prêchent par envie et par esprit de dispute. Et ou encore par esprit de parti. Et non sans pureté. Et eux, ils ont toute la liberté d'aller et venir. Eux peuvent le faire. Mais arrête-les. Arrête-les, Seigneur. Et libère-moi. Laisse-moi faire ce que je dois faire. Est-ce que ça n'aurait pas été légitime, ces sentiments? Est-ce qu'ils n'auraient pas été légitimes? Ben, rien du tout de ça dans le cœur de l'apôtre. Rien du tout. Quand vous lisez l'Épître, il accepte sans murmurer. Sans murmurer, il accepte cette captivité. Et il sait qu'à travers toutes les circonstances que Dieu permet, il y a du bon derrière. Il y a quelque chose de fort qui arrive. Il se soumet entièrement à la volonté de Dieu. Et il a vécu quelque chose, il vit quelque chose, il sait quelque chose que nous oublions trop souvent. Chose que nous répétons souvent, mais qu'on a tellement de difficultés à vivre en nous. À travers tout et malgré tout, Dieu fait tout bien. Dieu fait tout bien. Il n'y a rien de négatif avec Dieu. Les seules négations qu'il y a, c'est nous. Il n'y a rien de négatif avec le Seigneur. Tout ce qu'il fait est bien. Simplement, on ne le comprend pas peut-être. On n'a pas nos yeux ouverts comme il faudrait qu'ils soient ouverts. On n'a pas nos oreilles qu'ils écoutent comme il faudrait écouter. Dieu fait tout bien. Même si ça paraît compliqué, Dieu fait toutes choses bien. Et vous savez quoi? Paul l'a tellement bien appris qu'il a appris à se contenter de tout. Et là où il était. Dans Philippiens 4, au verset 11-13, je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Lire, c'est une chose. Vivre, c'en est une autre. Et la réponse à tous ces problèmes, à tous nos doutes, à tous nos manquements, elle est là. Je me contente de tout ce que tu me donnes, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui me donnes et c'est toi qui me gardes. Et je puis tout par celui qui me fortifie. C'est compliqué cette vie en ce moment. C'est difficile, je galère. Mais je sais que tu es là, Seigneur. Je te fais confiance. Je sais que même si c'est compliqué, si je pleure, si je souffre, je suis dans ta main. Je suis dans ta main, Seigneur. Et je veux traverser ces moments avec toi, en ayant confiance en toi. Christ est la source de la joie. Christ est la source de la joie qui nous remplit notre cœur. Et Paul l'avait compris, et il se ressourçait en Christ. Il se ressourçait en Christ. C'est lui qu'il allait voir quand ça n'allait pas. C'est lui qu'il priait quand ça n'allait pas. Pensez bien que Paul était un homme, il devait souffrir. Il devait avoir froid, il devait avoir faim, il devait avoir des galères. Mais se ressourcer, il allait les droits, les yeux dirigés vers Christ. Ses pensées dirigées vers Christ. Et il faut que, entre guillemets, si l'épître, la parole de Dieu, elle est là, si l'épître aux Philippiens, elle est là, si elle nous a été donnée, c'est que, ben, il faut qu'on s'en inspire. Il faut qu'on s'inspire de cette parole. Il faut que, de se dire, mais il y a un témoignage de vie qui est là, et je veux imiter Paul. Je veux imiter Christ, mais comprenez ça. Parce que Paul imitait Christ. Il cherchait l'imitation, il cherchait Christ, Christ qui était le parfait, celui qu'il fallait vraiment voir, regarder, prendre exemple. Donc, prenons exemple sur Paul, faisons la même chose que lui. Regardons à Christ, Alors, comme je disais tout à l'heure, pendant que Paul était prisonnier, il y a beaucoup de frères qui avaient pris du courage, de la confiance, parce qu'ils avaient vu le témoignage de Paul. Ils avaient pris de l'hardiesse pour témoigner. Alors, cependant, il y en a qui agissaient par envie, par esprit de dispute, par esprit de parti. Bah ouais, c'est tellement facile de vouloir être le premier. C'est ça ? Être le premier. Succomber à la tentation d'être le premier. Vous savez quoi, Paul ? On n'est pas jaloux. Il ne se prend pas la tête avec ça. Parce que lui, il se réjouissait. Parce qu'il disait, ouais, c'est vrai qu'il prêche avec un esprit de dispute, un esprit de division pour attirer les foules, les gens. Mais lui, Paul, il se réjouissait. Vous savez pourquoi ? Parce que Christ est annoncé. Plus important, entre guillemets, est-ce le prédicateur ? Qui est-ce qui est important ? C'est le prédicateur ou le message ? C'est qui est important ? C'est ce que Dieu veut parler à ton cœur ? C'est ça qui est important. Que ce soit Jean-Michel, Daniel, Michel, Pierre, Paul, Jacques et tous les autres, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que tu reçois ce matin. Comment Dieu parle à ton cœur ? Ça, c'est important. Philippiens 1,8 nous dit « Qu'importe, de toute manière que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Amen. Ça, c'est important. Encore aujourd'hui, hein, on pourrait s'agacer. On pourrait ne pas être d'accord de certaines façons de prononcer l'évangile, d'apporter l'évangile. Parce que, ben voilà, elle ne correspond pas à la façon de voir sur son autorité, sur son enseignement. Certaines églises, certains frères, certaines fédérations prêchent l'évangile avec peut-être des enseignements qui ne sont pas dans l'évangile. Désolé. Alors on pourrait dire quoi ? Je les rejette ? Vous savez quoi ? Soyons sages. Soyons sages de ne pas couper, de peut-être pas s'associer, de ne pas donner une main d'association à certaines choses. Mais soyons sages aussi d'accepter de dire que Christ est annoncé quand même. Christ est annoncé quand même. Et qu'est-ce qui est le plus important ? C'est le message de la croix. Hein. Le message de la croix. Et si, à travers ses frères et ses sœurs, il y a des gens qui s'avancent vers Christ et qui donnent leur vie à Christ, vous savez ce que je dis ? Alléluia. Alléluia, amen. Parce qu'il y a des gens qui se donnent à Christ. Après, je fais confiance au Saint-Esprit pour ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux. Et de faire comprendre que ben, il y a des choses qu'il faut faire attention à ce que tu écoutes. N'importe comment, la responsabilité de chacun de son éducation spirituelle n'est pas celle du pasteur. Le pasteur, certes, il est là pour vous enseigner, pour vous coucouner, mais il n'est pas là non plus responsable de votre âme. C'est à vous d'aller voir la vérité. Et si un jour, dans ma prédication, vous vous rendez compte que j'ai raconté des bobards, enlevez-le rapidement de votre tête et venez me le dire. Michel, tu t'es planté. Dites-le, parce que ça pourrait être salvateur pour moi. En Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de variation. Si dans la parole de Dieu, aujourd'hui, on décèle que Dieu est joie, alors réjouissons-nous de croire en un Dieu qui est joie, en un Dieu qui donne abondamment la joie. Vous savez, on a déjà entendu, ouais, c'est pas la joie aujourd'hui, hein ? Hein ? Ah bah, c'est vrai. Quand on regarde ce qui se passe, il y a des moments à la télé ou dans notre vie, on peut le dire, c'est pas la joie, hein, pas terrible. Mais cette réflexion, elle est positionnée comment ? Est-ce que la joie de Dieu, celle que Dieu donne, elle fluctue par rapport aux, aux actualités, au climat? Est-ce que vous croyez que Dieu donne moins sa joie aujourd'hui parce qu'il neige? Bien sûr que non. Dieu donne abondamment. Dieu donne abondamment et pas avec les circonstances. Cette joie, elle doit être notre joie, celle qu'on veut vivre, elle doit être positionnée en Christ, en Dieu. Elle ne doit pas être comme un thermostat, vous savez. Elle ne doit pas varier selon les plaisirs. Et on a besoin vraiment que le Saint-Esprit nous apprenne ces choses. Vraiment que le Saint-Esprit nous montre que on a tout en Christ et c'est qu'à nous. Mais c'est vraiment qu'à nous de décider d'être dans la joie. C'est qu'à nous de le faire. C'est pas Virginie qui va décider que je dois être dans la joie. C'est moi-même qui dois décider. Je veux être dans la joie. Je veux vivre la joie. Alors, je ne vous dis pas de vous lever dès le matin. Je suis dans la joie. Non, ça serait stupide. C'est pas ça. Ouais, mais je l'ai fait exprès ce matin. Ce matin, je faisais ça. Mais c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir cette attitude, de profiter pleinement de Christ, de dire, mais quel bonheur! Quel bonheur! Je crois en Dieu. Je vis en Christ. Je suis son enfant. Je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi je vais faire la gueule? Pourquoi? J'ai tout. J'ai tout. Et beaucoup tout. Ah ouais, c'est pas simplement tout. Non, j'ai tout. Grandement. Il m'a tout donné. Mais simplement, ben voilà, faut vouloir. On a vraiment besoin qu'on nous montre de se battre, de faire taire, entre guillemets, la chair. Et de laisser plus parler l'esprit. Vous vous souvenez du dernier message de Mathieu Le Maire? J'ai bien aimé ce passage où il s'écrase sur le frère. Bah ouais, casse-toi, va-t'en, laisse-moi vivre ma vie de Dieu, que Dieu a pour moi. Laisse-moi vivre ma vie. Je veux vivre ce que l'esprit me donne. L'esprit me donne. Me laisser vraiment prendre par l'esprit. Vous savez, c'est dans Ézéchiel avec la rivière. Hein, quand on marche au début, la cheville, le genou et tout. Ouais, je veux vivre ça. Je veux arriver à un moment où il n'y a plus de Michel qui agit. C'est plus Michel qui agit. Être libre de lui. Être libre de lui. Vraiment. Mais Seigneur, je veux ça. Mais simplement, il faut faire taire la chair. Galates 5, verset 16 à 18. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ces versets-là, vous savez, Galates, je l'ai lu plein de fois. J'ai passé à travers ces versets. Et c'est là, avec les études, et ce verset-là fait partie des versets qu'on doit apprendre par cœur. Puis à force de me le répéter, mais je dis, c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai que je voudrais faire les choses, mais je fais les contraires. Opposés entre eux. J'aimerais tellement être doux, tellement gentil, tellement calme, peu à être impulsif. Et vous savez, le vrai Michel, la chair Michel, waouh, comment je me bats pour le faire taire! Mais comment je me bats? Il y a des moments, je suis là. Ah ouais. à mettre des gifles, à m'énerver, à parler pour dire des conneries. C'est tellement compliqué. C'est tellement dur. Vivre selon l'esprit, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Mais vous savez quoi? J'ai décidé de le faire. J'ai décidé de me battre. Je veux. Je dis pas, hein. Je m'améliore. Je n'ai pas gagné. Mais Paul le dit aussi. Je combats le bon combat. J'avance, je progresse. Et je vais peut-être moins vite que lui. Mais j'y essaie d'y arriver. Je veux vraiment progresser pour Dieu. Vous savez, j'ai envie vraiment que quand Christ me regarde, il sourit. Qu'il me regarde avec un sourire. Bien, Michel. Tu es sur le bon chemin, tu vois. Ouais, je veux ça. Je veux ça. La chair n'a pas toujours envie de se réjouir. Hein. Quoique. Hein. Peut-être pas dans les bons trucs, en tout cas. La chair n'a pas envie. Mais l'esprit veut se réjouir. Il veut que tu profites de la joie de Dieu. Il veut. Il veut que tu sois un enfant joyeux, heureux. Alors si je suis pas négatif, s'il y a du négatif dans ma vie, si je suis pas en forme, j'ai le choix. Soit j'ai pas envie de me réjouir, j'ai plutôt envie de me plaindre, de râler toute la journée. Ou alors si j'ai envie de vivre selon l'esprit, qu'est-ce que je fais? Je me réjouis. Je dis à mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et c'est moi qui te le dis, et tu n'as rien d'autre à dire. Je veux que tu te réjouisses en Christ. Tu vas prendre autorité. Je vais prendre autorité. Le Saint-Esprit nous a régénérés. On est devenu. Est-ce que vous êtes des nouvelles créations? N'est-ce pas? Vous êtes rempli de Dieu? Vous êtes rempli du Saint-Esprit? Donc vous avez tout à l'intérieur. Tout ce que Dieu vous donne, tout est à l'intérieur. Vas-y, mets-le. Non, pas ça. S'il te plaît. Allô. Ce qui se passe à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est pas pour remplir... Non. C'est pas pour que ça soit à l'intérieur, que ça y reste. Hein. C'est pour que ça explose. Que ça explose, que ça jaillisse de nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. T'as vu, je travaille certains, un peu moins d'autres. Mais voilà, c'est ça. Ce qui est à l'intérieur de nous, boum, ça doit sortir, ça doit aller. Et potentiellement, il y a de la joie en nous. On est bien d'accord, puisque si on a reçu ça, c'est en nous. Donc potentiellement, on est des vraies bombes. On est des vraies bombes pour Christ. Hein. On est des vraies bombes. Dieu a mis tous les composants là pour bling, exploser, pour faire voir au monde comment on est transformé par Christ. Mais c'est simplement à nous de le manifester à l'extérieur. Tu l'as pas mis? Ah bah si, tu l'as rajouté à l'axe. Ah ouais, d'accord, c'était en deux fois. Ok. Alors comme je l'ai dit, si on réalise que dans la parole de Dieu, que Dieu dit que la joie est en nous, que Dieu nous donne la joie, on peut la vivre, on peut la manifester et la partager avec tous. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Amen. Je compte sur vous. Hein. Je vais questionner votre entourage pour savoir si vous avez été joyeux cette semaine. Et même si c'est trop dur, même si c'est trop compliqué, trop de problèmes, trop de galères, la parole de Dieu, elle dit vrai ou elle dit faux? Amen. Donc, s'il te plaît, affiche Jacques, chapitre 1, versets 2 à 5. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qu'il donne à tous, libéralement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. On doit se réjouir en tout. Ça, c'est dur quand même, non? Ah ouais? Les épreuves, elles arrivent. Les difficultés, elles arrivent. Je dois quand même me réjouir. Parce que je me dis que, ben ouais, ça, c'est des choses qui vont me faire grandir. C'est des choses qui vont m'apprendre la patience. Moi, je dis souvent à mes filles, ben, ils vivent des galères aussi, hein, mes filles. Et je dis, tu sais, papa et maman, ou maman et papa, on a eu des déserts dans nos vies, mais des galères phénoménales. Mais après chaque désert, il y avait toujours un oasis. Dieu nous faisait passer. Je vais vous raconter après. Après chaque désert, il y a toujours un oasis. Et plus le désert est grand, plus la bénédiction sera grande après. Et Aurélie, c'est Aurélie, hein, elle vivait vraiment une difficulté. Elle dit, oh, papa, l'oasis, ça a intérêt à être un 2 litres. L'oasis, c'est une boisson, ça s'appelle oasis. Non, mais Jean-Michel n'avait pas compris. Alors Aurélie, elle dit, ça a intérêt à être au moins un 2 litres. Mais voilà, se laisser se transformer par Christ, se laisser, comme le potier, modeler à travers nos problèmes. T'as des soucis, c'est pas un problème. Laisse, Dieu va tout. Il est là, t'inquiète pas, ne prends pas la tête. Ne te prends pas la tête, Dieu y est là. Je vois que ça diminue. Je vais clôturer avec le verset Jean 15, 4, s'il te plaît. Je vois qu'il y a déjà moins le quart. Jean 15, 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Vous voulez grandir? Vous voulez porter du fruit? Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Dans toute chose. Toute galère, toute réjouissance, tout. Les yeux fixés sur lui. Ça doit vraiment être une obstination. Une obstination de suivre le parfait modèle. Le parfait modèle. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, comme je dis. C'est à vous de jouer, de prendre cette décision. Demeurer dans la joie. Dans cette joie que Dieu vous donne. Et puis, prendre la décision. J'avais écrit, si tu veux bien, le dernier verset en rouge. La joie de Dieu, elle est pour moi. Je le décide. Je veux la vivre. Je veux vivre la joie de Dieu. Je ne veux pas simplement qu'en parler. Je veux vivre la joie de Dieu. Et parce que je veux vivre la joie de Dieu, je veux que les gens voient que je vis la joie de Dieu. Amen.
Très bien, j'espère que vous êtes...